autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour demander la Lune aujourd'hui, la face cachée de la Terre, notre unique satellite qui éclipsera le Soleil vendredi prochain, l'occasion de nous interroger sur cet astre essentiel à la vie sur Terre qui nourrit depuis toujours notre imaginaire, notre soif de connaissance et notre désir d'ailleurs. Destination Lune aujourd'hui en compagnie de nos invités, le spationaute Jean-François Clairvoy et l'astronome Bernard Melgen. Autour de la question « Pourquoi demander la Lune ?» Bienvenue. Bonjour Jean-François Clairvoy.
Bonjour.
Bonjour Bernard Melgen.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous à quelques jours de l'éclipse solaire pour partager nos rêves et vos connaissances sur la Lune. La Lune que vous avez vue d'un petit peu plus près que nous, Jean-François Clairvoy. Vous êtes astronaute à l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, président de Novespace, filiale du CNES en charge des vols paraboliques en apesanteur. Vous avez volé 3 fois dans l'espace, à bord des navettes spatiales américaines Atlantis et Discovery. C'est-à-dire que vous avez vu la vraie couleur de la Lune, elle n'est pas si brillante que ça, vue de l'espace.
Ben, c'est vrai que depuis le sol terrestre, on la voit souvent argentée, brillante, blanche. Mais lorsqu'on la regarde depuis au-delà de l'atmosphère, donc sans filtre qui modifie la couleur, on voit sa vraie couleur, elle est plutôt marron clair. C'est plutôt, ça tire sur le marron plutôt que sur le blanc, mais elle reste très belle quand même.
Elle reste très belle. Vous avez passé combien de temps dans l'espace ?
3 fois une dizaine de jours, 28 jours.
Un cycle lunaire. Ah, un cycle lunaire dans l'espace, en 3 fois. Bernard Melgen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de cours d'astronomie à l'Université de Nantes et conseiller scientifique à l'espace des sciences de Rennes. Vous venez de publier aux éditions de La Martinière avec Catherine Sauva un magnifique livre sur la Lune, la face cachée de la Terre, cachée et indissolublement liée à la vie sur Terre. L'une ne va pas sans l'autre.
Oh oui, deux choses l'une, l'autre étant le Soleil, disait Prévert. La Terre et la Lune sont un corps double en général. En principe, c'est ce qu'on a découvert. Et de toutes les planètes du système solaire, c'est la Terre qui a un seul satellite, mais le plus gros satellite eu égard à sa taille. Donc la Lune étant massive et très proche de la Terre, elle a une action directe sur la Terre depuis sa naissance.
Autour de la question, pourquoi demander la Lune quand on est sur Terre ? Première piste de réflexion sonore nourrie autant d'imaginaire que de réalité scientifique avec le mix forcément lunaire de Charles Pélabon.
Depuis l'aube de l'humanité, nous sommes captivés par sa lumière. Elle a donné naissance à une foule de mythes, de controverses et de mystères.
C'est tout gris, il n'y a pas de maison. Elle n'est pas aussi luminante que le soleil et du coup j'ai pas peur de me brûler si j'y vais.
Je pense qu'à toutes les époques, les hommes ont eu besoin de la comprendre et d'établir une relation avec elle.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas.
Beaucoup pensent qu'elle n'est qu'un objet inerte qui flotte dans l'espace.
Il se produit de nombreux événements sur la Lune, comme des luminosités, des changements de couleur et même des émissions de gaz.
Les marées, ça marche comment ?
Je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur l'influence de la Lune sur le cycle de la nature.
On a longtemps tenté d'associer la Lune et ses effets gravitationnels sur le comportement des hommes et des animaux.
Je suis nerveux.
C'est normal, c'est pleine lune ce soir.
Comme c'est beau la lumière de la Lune.
Qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse ?
En fait, c'est une sorte de lune qui est noire.
Allô, fusée lunaire, appelle la Terre.
Allô, ici la Terre, vous venez de quitter le champ d'attraction terrestre.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité.
Est-ce que l'exploration humaine du système solaire a encore un sens ? Est-ce que la Lune est la prochaine étape avant Mars ? Ou est-ce qu'il faut laisser ça au robot définitivement ?
C'est un espace de découverte qui est absolument fascinant et qui explique la vie, qui explique ce qu'on est.
Nous ne savons certainement pas tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Nous découvrirons de plus en plus de choses.
Autour de la question « Pourquoi demander la Lune ?», on sait tout de même aujourd'hui comment elle est née, et elle est née... d'un impact, enfin d'une extrême, sa naissance a provoqué une extrême violence, est venue d'une extrême violence, Bernard Melgen.
Plusieurs hypothèses d'astrophysiciens mondiaux ont été proposée et la dernière, la toute dernière qui semble aujourd'hui rassembler la communauté internationale des astrophysiciens. Alors, la Lune serait née d'un impact, la théorie de l'impact géant, hein, c'est-à-dire que dans le tout début de la formation de la Terre était encore très chaude, pas refroidie, il y a donc plus de 4,5 milliards d'années, une planète de la taille de Mars environ aurait percuté tangentiellement la Terre, aurait arraché un morceau du manteau terrestre, ce serait lesquelles roches seraient agglomérées avec l'astre impacteur, et le tout aurait formé la Lune qui, prisonnière du champ gravitationnel de la Terre, eh ben, s'est mis à tourner tout près de la Terre dans les débuts et c'est devenu notre satellite unique.
Donc c'est la sœur, la Lune, on pourrait dire que c'est la sœur de la Terre.
Ah, si on regarde la généalogie, ça serait plutôt la fille de la Terre. Le papa, c'est l'astre impacteur, la maman, c'est la Terre ou vice-versa, parce qu'il y a une partie de la Terre et une partie de l'astre impacteur.
On peut dire aussi que la Lune, du coup, elle sert quoi? Elle a permis l'éclosion de la vie sur Terre parce qu'elle sert quoi? Un peu de bouclier et de contrepoint en même temps, c'est ça?
Ben, vous avez dit l'essentiel. Alors, est-ce qu'elle a permis l'éclosion de la vie? Ça, c'est le grand mystère. Les revues, les spéculations vont bon train. D'où vient la vie? Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui le sait aujourd'hui. Mais les conditions favorables à la vie sont certainement dues à la Lune pour des raisons très simples que vous avez rapidement évoquées. On peut préciser plus. L'axe d'inclinaison de la Terre qui est fixe par rapport à l'orbite terrestre, il y a une certaine inclinaison qui génère les saisons, et bien cet axe, il est stabilisé.
C'est la Lune qui génère les saisons sur Terre.
Pas
l'axe
du tout.
Non, l'axe de la Terre, mais c'est lié à...
L'axe de la Terre qui tourne autour du Soleil fait qu'on voit le Soleil très haut ou très bas sur l'horizon, selon les lieux où nous sommes. Mais cet axe, sur d'autres planètes, il peut se modifier. Et souvent, et à ce moment-là, on aurait un désordre dans les saisons. On n'aurait pas des climats réguliers ni des saisons régulières. Donc les saisons viennent du Soleil, de l'axe d'inclinaison de la Terre, qui reste fixe, stabilisé par la Lune, comme un contrepoids stabilise le funambule.
Alors le Soleil, puisqu'on a parlé de lui par rapport à la Terre, il est 400 fois plus gros que la Lune, mais une étrange coïncidence, c'est qu'il est aussi 400 fois plus éloigné. Voilà pourquoi il nous paraissent à la même distance quand on regarde le ciel.
C'est tout à fait cela, c'est une étrange coïncidence, c'est-à-dire que les deux chiffres coïncidents, 400, une question d'angle, hein, 400 fois, c'est de la géométrie élémentaire, 400 fois plus proche que le Soleil, mais 400 fois plus petite, ou le Soleil 400 fois plus loin et 400 fois plus gros, c'est la même chose, eh bien, la taille apparente des deux astres est la même, ça fait un demi-degré d'angle, c'est-à-dire le Soleil est l'œil du jour et la Lune est l'œil de la nuit, si vous voulez, dans l'imaginaire populaire.
Et peut-être pas seulement dans l'imaginaire populaire, l'œil du jour, le Soleil, et l'œil de la nuit, la Lune, Jean-François Clairvoyant, vous qui avez été dans l'espace, ça fait ça quand on est dans l'espace? Enfin, la Lune éclaire la Terre?
C'est très joli de voir la Lune et de voir aussi le reflet de la Lune sur les océans, sur les rivières, sur la mer Méditerranée.
Et même
dans des films, comme le film Gravity, on voit le commandant de bord, un peu le cake costaud, on le voit s'émerveiller comme un enfant devant le reflet de la Lune sur le Gange, en survolant l'Inde et le Népal. Et j'ai vécu ça, c'est vrai que c'est très magique. Il y a quelque chose de phosphorescent. La Lune donne un... Surtout lors de mon troisième vol spatial, elle était au plus près depuis 200 ans et pleine. Et elle éclairait la Terre du côté nuit, opposé au Soleil. Et grâce à l'éclairage fourni par la Lune, on distinguait le contour des continents et avec un effet un peu phosphorescent. C'était très beau à voir. Très, très beau à voir. On en était très émus. On se touchait mutuellement en se disant... Tu te rends compte, c'est vraiment nous là qui avons la chance d'admirer ce spectacle. La Lune est très belle, mais cette lumière, c'est celle du Soleil, bien sûr. Hein. La Lune n'émet pas de lumière spontanément, elle reflète...
Adoucie.
Elle reflète une lumière adoucie venant du Soleil.
La Lune adoucie, c'est elle aussi qui a permis aux hommes de faire leur calendrier.
Ah, les premiers calendriers sont lunaires, c'est incontestable. Bon, récemment, c'est une théorie de paléontologues qui semble tenir la route. Dans la grotte de Lascaux, la chapelle Sixtine du paléolithique, eh bien, sous le corps d'un cheval, on voit 29 dessins noirs par coïncidence, évoque tout à fait les phases de la Lune. Donc, mesurer les jours qui passent avec les phases de la Lune, c'est très simple, parce que Regardez, le soleil, c'est classique ce que je vais vous dire, hein. Le soleil, c'est le jour et la nuit. Tout le monde voit ça, c'est très simple. Mais après, il y a l'année. 365 jours ou 366. Bon, bah, il y a un fossé immense entre ces deux mesures. Et ben, la Lune mesure un temps à échelle humaine. C'est-à-dire que, en un mois, puisque le mot mois et le mot lune est le même dans toutes les langues, hein, moon, month, monat, month en allemand, en russe, c'est quelque chose comme yesiat, en chinois aussi. Le premier mois, deuxième mois, c'est lune 1, lune 2, etc. Eh bien, sauf en français, où on a lune, c'est luxna, la lumineuse. C'est le côté peut-être méditerranéen. Hein, elle brille, alors on parle d'elle.
Mais
on
en grec, a les mois, hein.
Oui, mais oui, les mois mensuels, men, qui est une racine indo-européenne qui veut dire mesure et qui veut dire méné, la lune aussi. Donc la lune est un affichage naturel et gratuit du temps qui passe dans le ciel. Il suffit de regarder la lune. Elle a telle forme aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un mois. Eh bien, il y a qu'à regarder la lune. Elle aura la même forme dans un mois. Et puis les semaines correspondent. Voilà, c'est une, peut-être qu'une coïncidence, mais entre les quatre principales phases, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, de nouveau, ben vous avez 4 fois 7, 28, ça fait le mois.
Autour de la question, pourquoi demander la lune? Réponse en musique de Manu Chao sur RFI, j'ai besoin de la lune.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
J'ai besoin de la lune, Manu Chao, sur RFI, autour de la question pourquoi demander la lune et pourquoi est-elle omniprésente, la lune, dans toutes les cosmogonies depuis toujours et sur tous les coins de la Terre, dans toutes les traditions. La lune est source d'inspiration, comme nous le rappelle le géologue Cristiano Ferraris, responsable de la collection de minéralogie du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
La lune, elle a inspiré toutes les plus grosses constructions comme tous les autres corps célestes, donc que ce soit les observatoires de Stonehenge, que ce soit les pyramides de Giza, que ce soit les pyramides aztèques ou les statues olmèques et toltèques. Donc on peut dire, quand, du point de vue scientifique, on peut jamais faire des tiroirs ou dire aujourd'hui on part de ça et on oublie tout le reste. En effet, c'est toujours un mélange.
La Lune est présente dans toutes les cosmogonies. Vous l'avez rappelé, Bernard Malguen, elle est déjà présente dans la grotte de Lascaux. Elle a nourri tous les imaginaires et toutes les cosmologies partout.
On la retrouve partout, hein. Il faut peut-être pas dire tout parce que je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais enfin, vous savez, ça va des Inuits, on passe chez les Incas, les Aztèques, en Chine, en Afrique, chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Sumériens d'abord, puisque l'histoire commence à Sumer, comme disait Kramer, avec la première écriture. Donc là, on a des preuves manifestes à Sumer, quoi. Donc elle est présente partout. Et avec, quand on creuse creuse un peu, on fait une analyse un peu structurale, si vous voulez, on trouve vraiment les mêmes caractères un petit peu partout, avec une grande coïncidence, les pouvoirs et puis l'imaginaire que suscite la Lune, ça se ressent en écho dans toutes les civilisations d'une façon à peu près semblable.
On a parlé de Stonehenge, d'observatoire de Stonehenge, comme d'un véritable ordinateur mégalithique. Hein, je cite, c'est cité comme ça dans votre livre.
Gerald Olkin, l'expression n'est pas de moi, je ne me permets pas des choses aussi, mais c'est un astrophysicien connu, américain, qui a travaillé sur Stonehenge et qui a proposé cette image.
Les hommes ont toujours finalement observer la Lune et remarquer, peut-être pas compris, la stabilisation entre la Lune et la Terre, comme ont pu le comprendre aujourd'hui les astrophysiciens et les astronomes, Jean-François Clairvoy. Mais les hommes ont toujours observé la Lune et en ont déduit un certain nombre de choses pour notre vie quotidienne sur Terre.
Ben elle est là, donc on peut pas ne pas y penser, ne pas faire comme si elle n'existait pas. On la voit, et alors certains la voient comme un disque plat. Il y a des enfants parfois, ils imaginent que c'est juste un rond plat. Alors l'imaginer sphérique, c'est un peu difficile parfois pour certains, mais tout le monde a eu envie d'y aller et puis voir s'il y avait quelque chose d'intéressant dessus. Et le premier discours de Kennedy, avant même le premier astronaute en orbite autour de la Terre, c'était nous décidons d'aller vers la Lune. Je pense que nous devons envoyer des humains vers la Lune et les ramener sains et saufs pour impressionner. Ça, c'est la stratégie politique. Et parce que ce sera très important pour l'exploration future de l'espace. Il avait compris, enfin, que si les humains veulent explorer l'espace, la première destination naturelle intéressante, c'est d'aller voir le corps céleste le plus proche que l'on voit. Et c'est vrai que elle a une influence sur Terre. Elle est dans l'influence de la Terre est dans l'influence de la Lune. Et je disais tout à l'heure, les tout premiers satellites, oui, qu'on a lancé dans l'espace pour les stabiliser, c'est-à-dire pour les orienter avec une face qui fait toujours face à la Terre. Par exemple, des satellites d'observation de la Terre. On veut que la face où il y a les caméras fasse toujours face à la Terre. Plutôt que d'utiliser des petits moteurs, une fois en orbite, on déployait une longue perche télescopique qui créait un axe d'allongement. Et ce qu'on appelle le gradient de gravité, c'est un terme technique qui fait que le point un peu plus proche est plus attiré que le point le plus loin.
Oui, Newton.
Et voilà, c'est comme la Lune et les marées. Le point de la Terre qui est face à la Lune est plus proche de la Lune que celui qui est à l'opposé. Mmh. C'est pour ça que la face...
C'est une force d'attraction.
Voilà, la face de la Terre qui est face à la Lune, si c'est un océan ou une mer, eh ben elle gonflera parce qu'elle est attirée par la Lune beaucoup plus que la face à l'opposé qui est un peu éloignée.
Donc elle est plus lourde les nuits quand elle est face à la Lune.
Alors pas lourde, mais je veux dire allongée. Elle s'allonge. Mmh. Et les marées hautes se trouvent du côté face à la Lune et du côté opposé à la Lune. Et on a utilisé cette technique naturellement visible avec le phénomène de marée pour stabiliser nos tout premiers satellites en créant une capacité du satellite à avoir un allongement tel que le côté le plus proche de la Terre, même sur 10 mètres, ça suffit. 10, 15 mètres,
oui,
ça suffit.
C'est fascinant.
Vous mettez, un cylindre dans l'espace, sans rien faire au bout d'un moment, eh bien, il se stabilisera de telle sorte que l'axe du cylindre soit suivant la direction verticale locale de la Terre.
Il sera attiré par la Lune.
Par la Terre.
Il sera attiré par la Terre en étant plus près de la Lune.
Oui, mais comme la Lune l'est par rapport à la Terre et la Terre par rapport à la Lune.
C'est une simplicité évangélique. Oui.
Et ça a été observé en observant les marées et le rôle de la Lune sur les marées sur Terre.
Voilà, les marées... Alors, les marées, c'est très intéressant parce que il y a des points... Alors, je sais plus comment, le nom est assez compliqué. Il y a des nœuds de vibration de marées. C'est-à-dire, il y a des endroits sur la Terre, des endroits océaniques, où il n'y a pas de marée. Par exemple, vous allez en Polynésie, il y a moins de 10 ou 15 centimètres de marée. C'est parce que il y a une combinaison entre l'attraction
et la marée.
Les marées,
c'est un phénomène... Excusez-moi, mais c'est un phénomène très complexe. Oui. Il est simple dans ses principes, mais en fait, il y a les lois de la gravitation que vous évoquez. Mais après, il y a les conditions terrestres, locales, du récepteur terrestre. Et alors, en fait, le rôle de la Lune et aussi du Soleil sur les marées, parce que la Lune
avec le
coefficient 2, le Soleil 1, donc la Lune est plus importante, c'est elle qui dicte les heures des marées. Mais en réalité, la Lune, quand on fait les calculs en mathématiques, c'est fascinant, c'est infime le rôle que la Lune, l'attraction que la Lune génère sur l'eau et aussi sur la Terre. Il y a des marées terrestres, on pourra en parler après. Mais après, il y a un phénomène de résonance des côtes. C'est-à-dire que les masses océaniques, dans, comme dans l'Atlantique, eh bien, sont tellement importantes que le va-et-vient de, des masses d'eau entre les côtes américaines et européennes fait tel que c'est amplifié terriblement par les côtes. Alors qu'en Méditerranée, il y a pratiquement mer fermée, pratiquement pas de marée.
Autour de la question, pourquoi demander la Lune et quel est son rôle dans les marées et comment éclipsera-t-elle la Lune, le Soleil, vendredi prochain? On se retrouve dans 3 minutes pour le savoir juste après le flash d'info pour fêter l'éclipse solaire et partir dans la Lune carrément avec vous. Jean-François Clairvoix et Bernard Melguen, à tout de suite.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie sous la Lune, à quelques jours de l'éclipse solaire, on va y venir. Nous nous interrogeons avec nos invités, l'astronaute Jean-François Clairvoix de l'ESA et l'astronome Bernard Melguen sur cet astre lunaire qui nourrit notre imaginaire, notre soif de connaissance et notre désir d'ailleurs autour de la question « Pourquoi demander la Lune ?» Piste de réponse dans un très beau film documentaire « Lune, la face cachée de la Terre » diffusé sur Planète.
Quand l'homme a posé son pied sur la Lune, il a dans le même temps posé un nouveau regard sur la Terre. Devant ce spectacle grandiose, l'astronaute Bill Anders annoncera qu'ils avaient fait tout ce chemin pour explorer la Lune, mais que la chose la plus importante était la découverte de la Terre. Il ne pouvait certainement pas imaginer à quel point il avait raison. Les héros de l'espace ont trouvé sur la Lune des objets d'une valeur inestimable, un trésor, vieux de plus de 4 milliards d'années, qui renferme la naissance d'une grande histoire, notre histoire. De leur voyage, les astronautes ont rapporté ces fragments de Lune, et dans ces quelques kilos de pierre, les hommes ont découvert, à leur plus grande surprise, un peu de notre Terre.
Ces pierres de Lune ont révélé notre filiation, hein, celle de la Terre avec la Lune, Jean-François Clairvoix.
Et oui, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, que le fait que la Lune est un morceau de terre arraché à la suite d'un impact d'un corps un peu de la taille de Mars, on l'a confirmé, on l'a vraiment validé par l'analyse des cailloux hein, qui ont été ramenés sur Terre par les astronautes des missions Apollo.
Vous en avez vous-même transporté, je crois, sur Terre, hein, des fragments de Lune?
Oui, à Houston, j'ai visité ce centre où il y a un peu plus de 400 kilos de roches lunaires ramenées par les missions Apollo, dont moins de 10% ont été touchées et analysées. Donc il y a encore beaucoup de roches lunaires intactes. Et ça m'est arrivé pour un musée en France d'en transporter parce que je faisais au bon moment le voyage Houston-Paris et j'avais la petite mallette avec la chaîne et le cadenas à mon poignet.
C'est un bijou très précieux.
Tous les papiers.
Hein.
Ah, oui,
comme dans les films policiers ou d'espionnage.
Ah, oui.
Oh là là.
Alors, cette filiation, en tout cas, de la Terre avec la Lune, elle a été, comment pourrais-je dire, renforcée hein, par... c'était un jour de Lune, un lundi, hein, 21 juillet 1969, quand l'homme a mis le pied sur la Lune. L'exploration spatiale a évidemment renforcé quoi, notre lien, permis de voir la Terre autrement aussi, vous Jean-François Clairvoix qui êtes allé dans l'espace, même si vous n'êtes pas allé sur la Lune.
Ah oui, c'est sûr, là, ces phrases de Bill Anders sur Apollo 8 qui a juste précédé Apollo 11, donc le premier vol d'humains qui se sont éloignés de la Terre jusqu'à tourner derrière la Lune. Ce qu'on a découvert, en fait, c'est la Terre. Ça a déclenché tout le mouvement environnementaliste qu'on a connu à l'époque. Toutes les grandes organisations, la branche de l'ONU qui s'occupe de l'environnement, etc.
C'est le fait d'avoir vu la Terre d'en haut si petite.
Voilà, se sont déclenchés à partir de là.
André Malraux disait « Pour voir son aquarium, mieux vaut ne pas être poisson ». Nous sommes sur Terre, nous ne voyons pas la Terre, nous n'avons pas conscience. Et puis, de loin, comme...
C'est-à-dire que la Terre, quand on la regarde depuis l'espace... Et je pense surtout à ceux qui étaient sur la Lune. Tous ceux qui ont marché sur la Lune ont marché sur le côté éclairé de la Lune par le Soleil, pour voir ce qu'ils faisaient. Donc, ils étaient éblouis par le Soleil. Ils ne voyaient pas une seule étoile. Quand vous regardez la Terre depuis l'espace et que le Soleil est dans votre champ de vue, votre pupille est trop refermée pour voir les étoiles. Vous voyez la Terre. Au loin, la Lune et le Soleil qui sont à un demi-degré, enfin, qui ont... Et vous avez l'impression qu'il n'y a que ça. Il n'y a que nous et il n'y a rien d'autre. Il y a vous dites, on a intérêt à bien se débrouiller parce qu'il n'y a personne pour venir nous aider.
C'est on seulement voit l'immensité, enfin le fait qu'on est perdu dans,
surtout,
dans l'espace.
Et surtout, voilà, ce noir, on a l'impression de voir l'infini. Alors que sur Terre, quand vous levez les yeux, vous voyez de la matière. Vous voyez du bleu, c'est l'atmosphère qui émet ce bleu, ou du blanc, les nuages. Mais vous voyez quelque chose. Il y a comme une carapace inconsciemment qui nous protège.
Il y a
un toit. Mais lorsqu'on est au-delà de l'atmosphère, on voit le néant à l'infini noir d'encre, avec rien.
Effrayant.
Et il faut éteindre les lumières dans le cockpit, attendre que on soit dans une orientation telle que le soleil et la terre soient dans le dos, pour que petit à petit, l'œil s'accommode à l'obscurité, et là, ça devient blanc, coloré.
C'est d'étoiles. Blanc le ciel, quand on y est, c'est plus bleu, c'est blanc.
Mais il y a tellement d'étoiles, et comme elles ne scintillent pas, parce qu'on les voit pas à travers l'atmosphère, on perçoit leurs couleurs, elles sont très très nettes, et on se dit, c'est pas possible, on peut pas être tout seul, et on peut, peut-être qu'ils viendront nous aider avant qu'on fasse trop de bêtises.
Ça vous change un homme, j'imagine, Jean-François Clairvoyt, que d'être allé dans l'espace, ça vous change un homme à l'intérieur, et puis ça change par rapport à la connaissance que nous avons eue, et de l'espace, et de la Terre, et tous les gadgets aussi que nous avons pu fabriquer en étant allé dans l'espace. Ça a changé.
À ce jour, tous les astronautes, sauf quelques exceptions, sont allés dans l'espace pour exercer un travail. La grande déception, quand on pose la question à Neil Armstrong, alors c'était comment sur la Lune? Sa réponse est « I was just doing my job ». Je faisais juste mon travail. Mais c'est vrai que avoir cette expérience physiologiquement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, extraterrestre. On se sent momentanément extraterrestre.
On se sent extraterrestre.
On sent des bouleversements dans notre corps. On voit pas les choses qu'on a l'habitude de voir, ni le ciel qui est noir d'encre. La Terre, on la voit sur un grand champ de vue à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde et ça défile très très vite à 28 000 km/h. On fait le tour en 1h30. On change de saison toutes les 45 minutes, puisqu'on survole l'hémisphère nord pendant 45 minutes où c'est tout blanc l'hiver, et les 45 minutes suivantes, c'est l'été, couleur de l'été. C'est pareil, nuit, jour, toutes les 45 minutes. Et on sent qu'on est extrait, on fait plus partie du régime Terre. Et momentanément, on se sent un peu un être extraterrestre, et qui se pose des questions qu'on se pose pas forcément quand on est sur Terre, ou qui pousse plus profondément les réflexions sur certaines questions, sur qui nous sommes, pourquoi on est là. Et
donc des questions à la fois philosophiques et scientifiques. Au fond, ça permet de se reposer des questions aussi, cette exploration spatiale et le fait de s'extraire de la Terre et de pouvoir aller...
Ah, bien sûr, pour les astronautes en premier, pour chaque individu qui le vit, mais après aussi auprès de ceux auprès desquels on témoigne, auprès des philosophes qui nous écoutent, parce qu'on a parfois des réflexions auxquelles les gens ne pensaient pas. Mais c'est vrai que cette conquête spatiale a démarré pour des raisons politiques et aussi économiques. Il faut savoir que quand on trace en fonction du temps la courbe du budget Apollo, qui forme une montagne, avec un pic à 4% du budget de l'État en 63-64, on superpose à cette courbe le nombre de diplômes de docteurs, S-sciences ou docteur en mathématiques, de PhD, comme on dit, en doctorat en sciences de l'ingénieur, sciences mathématiques, sciences physiques. C'est des courbes qui forment des montagnes corrélées avec le budget Apollo. Ça démontre comment le programme Apollo a inspiré, boosté des jeunes au lycée pour
générer des vocations,
pour choisir les études scientifiques et les motiver pour les étudier au plus haut niveau. Et ce sont ces gens-là qui partent plus ou moins à la retraite maintenant, qui ont fait la puissance industrielle aérospatiale des États-Unis. Sans le programme Apollo, l'industrie aérospatiale américaine ne serait pas aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui.
Autour de la question, pourquoi demander la Lune? Nouvel éclairage en forme de question, posée cette fois-ci par le géophysicien Jean-Louis Fellouz, qui a dirigé, lui, les programmes d'observation de la Terre au CNES, et qui est aujourd'hui directeur exécutif du Comité mondial de la recherche spatiale. On l'écoute.
Pourquoi retourner sur la Lune aujourd'hui? C'est quelque chose qui a déjà été fait il y a fort longtemps maintenant, dont on a ramené pas mal d'informations. On sait aujourd'hui ramener pas mal d'informations à partir de robots. Faut-il retourner sur la Lune?
Faut-il retourner sur la Lune, Jean-François Clairvoyt? Qu'en pensez-vous?
Alors, il y a plusieurs réflexions. Je pense que si on veut retourner, si on veut faire quelque chose au-delà de l'orbite basse c'est là où nous sommes aujourd'hui avec la station spatiale internationale,
500 kilomètres au-dessus de la Terre.
L'intérêt principal de la Lune, d'un point de vue vol habité à court terme, c'est apprendre les opérations sur le plan opérationnel, comment assembler une base, comment ravitailler une base, comment gérer les opérations, parce que en cas de pépin, on peut parler en temps réel avec les spécialistes sur Terre et on peut revenir en 2-3 jours. S'il faut revenir d'urgence.
Ce n'est pas le cas sur Mars.
Le jour où on partira vers Mars, On ne pourra plus revenir en quelques jours, il faudra attendre plusieurs mois avant d'envisager un retour sur Terre. On ne pourra plus parler avec des spécialistes. Donc ce sera vraiment un autre mode de vol habité que ce qu'on a connu aujourd'hui. Et ils ne verront plus la Terre. Donc sur le plan psychologique, c'est vraiment très différent.
Donc c'est une sorte de plateforme pour pouvoir aller plus loin ailleurs.
Voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire sur le plan technique ou technologique.
On pourrait envoyer des robots aujourd'hui, ça suffit, c'est ça que vous dites ou...
Alors, pour en apprendre un peu plus sur la Lune, sur le plan scientifique, mais si on veut vraiment pousser la recherche profondément, il faut quand même des humains. Hein. On dit si vous voulez programmer une mission automatique pour avoir les mêmes performances, capacités de raisonnement sur place, de décision qu'une mission habitée, ça coûterait plus cher qu'envoyer des hommes. Hein. Donc, mais il faut envoyer des robots. Les robots font des choses extraordinaires, mais ils remplaceront jamais aussi l'aspect émotionnel. Vous savez que les hommes qui vont dans l'espace, qui ont marché sur la Lune, quand ils reviennent, la première question qu'on leur pose devant toutes les autres, c'est « c'était comment ?» Mmh. Sous-entendu, si moi j'étais à votre place, mon corps me dirait quoi ? Je ressentirais quoi ? Est-ce que j'aurais peur ? Comment je verrais les choses ? Comment on entend le bruit ? C'est ça qui intéresse les gens. C'est le compte-rendu de représentants de leur espèce qui reviennent et qui témoignent, qui racontent avec leurs émotions, le vécu. Et ce rôle d'explorateur qui vient rendre compte de son vécu, en plus qui raconte sur le plan scientifique ce qu'il a découvert, c'est irremplaçable. Il y a que des humains, comme disait Hubert Reeves. Vous verrez jamais un robot dire « Oh, regarde !» Voilà.
Mais il faut des humains. Aujourd'hui, parmi tous les humains qui s'y intéressent, il y a les Chinois qui s'intéressent beaucoup à la Lune, parce que longtemps ça a été lié à la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques. Aujourd'hui, il y a d'autres nations qui s'y intéressent vraiment à la Lune.
Et ils sont très très forts, les Chinois. Alors, ils n'ont pas encore annoncé clairement qu'ils souhaitaient envoyer un équipage sur la Lune, ils le feront peut-être, mais ça fait pas partie aujourd'hui de leur programme officiel. Mais en tout cas, ils envoient des robots, des rovers, et qui font des expériences qu'on n'a pas réalisées à ce jour en perçant le sol à des profondeurs qu'on n'a jamais atteint jusqu'à présent. Donc, c'est pour démontrer qu'ils sont très forts sur le plan technologique, opérationnel, et pour aussi rendre leur peuple fier. Et ça, c'est important.
Oui,
c'était aussi la une fierté, des motivations de Kennedy.
Bah, c'est un rêve d'aller sur la Lune. C'était un rêve, et c'est quand même toujours un rêve. Preuve de puissance.
Et la Lune dans la culture chinoise, enfin, il y a un lapin sur la Lune, le lapin de jade, c'est l'élixir d'immortalité que le lapin mixe sur la Lune. Enfin, dans l'imaginaire chinois, c'est considérable.
Mais dans l'imaginaire de tous, sur Terre.
Mais vous savez, à très long terme, maintenant, si on se projette à des millénaires, centaines de milliers d'années ou même millions d'années, si l'homme n'apprend pas à vivre ailleurs que sur Terre, l'espèce humaine un jour disparaîtra pour toujours et plus rien. Il y aura. Alors, c'est peut-être pas important de se
quand
dire,
ce
serait bien de pérenniser l'espèce humaine. Et
pour
puis...
vous, il faut qu'on apprenne à pouvoir vivre ailleurs que sur Terre,
non.
Jean-François Clairvoy.
Non, la première question, c'est est-ce que c'est important ou pas de chercher à pérenniser l'espèce humaine dans l'histoire de notre univers à nous, la Terre. On sait qu'elle a plus que 4 et quelques milliards d'années à vivre en tant qu'être géologique. Voilà. Mais une espèce vivante sur Terre, en moyenne, c'est 10 à 100 millions d'années. L'espèce humaine disparaîtra un jour, ne serait-ce que pour des raisons naturelles, comme il y a eu dans le passé des extinctions majeures, d'impacts d'astéroïdes, de supervolcans, d'hyperglaciations climatiques. Donc, si on considère que ce serait dommage de perdre toute ce savoir, ces connaissances, ces réflexions, cette sagesse, cette réflexion sur nous-mêmes, ce serait peut-être dommage de le perdre. Alors, si on veut pas le perdre, il faut qu'on apprenne à vivre ailleurs. Il faut qu'on prépare des chaloupes de sauvetage ou
Et pour apprendre à vivre ailleurs, rien de mieux que la Lune, quoi. C'est ça que vous dites aussi,
la Lune ou Mars, mais la Lune.
Enfin, Mars, c'est plus compliqué encore.
Hein. Oui, mais non, la Lune, c'est là qu'on peut apprendre. Elle est toute proche, elle est facile d'accès, on peut en revenir facilement.
On pourrait aussi découvrir
c'est un bon endroit pour commencer.
Et on pourrait aussi découvrir la face cachée de la Lune, celle qui est pas dirigée vers la Terre et qui pourrait permettre aussi de faire des observatoires et de sacrées expériences.
Mais c'est la fameuse phrase de Tsiolkovsky, je bafouille. Excusez-moi du russe, la Terre est le berceau de l'humanité, mais est-ce qu'un enfant doit rester toute la vie dans son berceau?
Mais on a le temps, hein, c'est pas un problème à résoudre maintenant. On a des millions d'années pour le faire. Mais si on le fait jamais, si on démarre jamais, c'est sûr qu'on n'aura jamais la solution. Mais...
Bon, on va laisser nos auditeurs y réfléchir, puisqu'on a le temps autour de la question pourquoi demander la Lune, pourquoi aller sur la Lune ou sous la Lune rousse de Fakir sur RFI.
parler de l'éclipse de la semaine prochaine?
On va venir le vendredi 20.
Vous allez l'observer à l'école?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse?
Ça va cacher le soleil parce que, en fait, c'est une sorte de lune qui est noire.
Ouais.
Et qui cache le soleil.
C'est ça, c'est la lune en fait qui cache le soleil. Elle va venir juste devant. Et comme elle a la bonne distance, bah elle cache presque. Alors, cette fois-ci, non, mais elle cache presque entièrement le soleil en fait. Et c'est grâce à ça qu'on peut voir une éclipse.
En fait, l'éclipse, elle va laisser un petit peu de soleil comme ça, comme ouais. Un croissant.
C'est ça. Et tu sais comment on appelle ça? C'est une éclipse partielle en fait. Partielle parce que bah, la lune, elle cache partiellement le soleil. Est-ce que vous savez comment on appelle une éclipse quand la lune, elle cache complètement le soleil?
L'éclipse totale.
Ouais, c'est ça, c'est l'éclipse totale. Et ça, c'est super beau parce qu'en fait, on ne voit plus du tout le soleil et on voit même les petits filaments de gaz tout autour. Ça, c'est vraiment parce que la lune, elle est à pile poil à la bonne distance pour qu'elle ait la même taille en apparence dans le ciel que le soleil.
L'éclipse solaire de vendredi prochain, le 20 mars, expliqué ce week-end in situ dans les journées portes ouvertes de la Cité des Sciences à Paris, au micro de notre envoyée spatiale Alice Milo. Beaucoup de questions sur cette éclipse qui sera donc partielle en France en tout cas et qui sera totale quoi dans l'extrême nord de l'Europe.
Oui, les îles Féroé, le Groenland.
Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à nos auditeurs? Ils sont nombreux, hein, internautes, à nous poser des questions. Malcolm Diallo à Dakar, l'éclipse sera-t-elle visible en Afrique de l'Ouest?
Oh, il faudrait que je vérifie la carte. Plus on descend vers le sud, moins elle sera partielle et moins elle sera visible quoi.
Moins elle sera visible du côté du Tchad non plus. Non. Et est-ce qu'on comprend mieux, enfin, on comprend ce phénomène de l'éclipse, on est capable de les prévoir, on les comprend depuis longtemps.
Oui, il y a de nombreux siècles, déjà les Sumériens avaient fait de gros travaux là-dessus.
Il y a longtemps. Longtemps,
les Sumériens, c'est le début de l'astronomie chez Sumer, c'est les premiers pas, c'est de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais les premières règles, Ptolémée les a très clairement énoncées, là on est aux 150 ans après Jésus-Christ.
Et comment se fait-il, question peut-être idiote, mais que la Lune parvienne à cacher, alors complètement ou pas, le Soleil? Comment se fait-il? Est-ce que c'est une coïncidence? Jean-François Clairvoy.
C'est des équations de trajectoire cosmique qui sont très bien maîtrisées. Et la Lune tourne autour du Soleil sur un plan qui est légèrement incliné par rapport au plan de l'écliptique qui est celui de la Terre autour du Soleil.
5 degrés, quoi.
Voilà. Et il arrive, par moment, que ces deux plans s'intersectent. La Lune passe devant le Soleil au moment où les deux plans s'intersectent. Donc la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. Voilà. Et quand ils sont alignés, ça arrive une fois tous les deux ans en moyenne, ou je sais pas, tous les...
Il y a deux éclipses en moyenne. Hein. Il y a deux éclipses de Soleil par an et deux éclipses de Lune.
Voilà.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles sont visibles comme si l'ombre de la Lune sur la Terre dessinait avec un fin pinceau un trait noir très très léger quelque part sur le globe terrestre. Donc il faut aller au bon endroit au bon moment.
Voilà. D'où les chasseurs d'éclipses qui vont chasser les éclipses en général totales. C'est celles qu'ils préfèrent, celles qui sont les plus étonnantes.
Bien sûr.
Éclipses annulaires qui sont assez jolies aussi.
Les deux sont magnifiques. Hein.
Annulaires, ça veut dire qu'il reste encore un anneau.
Il y a un anneau de feu dans le ciel. Moi, j'avais organisé une année avec mes étudiants d'aller en Islande. C'était un anneau. On avait baptisé ça anneau de feu sur l'île des glaces, quoi. Ouais. Une autre fois, je suis allé en Birmanie en 2010. C'est plus récent. C'est sur Bagan, dans un lieu extraordinaire déjà chargé de temples d'or en Birmanie. C'était un lieu extraordinaire. Et donc là, il y avait une éclipse annulaire aussi qui figure d'ailleurs dans le livre, j'avais les moines bouddhistes, des très jeunes, qui étaient émerveillés de voir ça. Il y a comme un trou noir au milieu du soleil. Mais ils n'avaient pas peur. C'est un spectacle très très beau.
Et les trajectoires sont telles que l'ombre de la Lune portée sur la Terre se déplace très très vite. Et il y a 45 ans, un des vols du Concorde, avant même qu'il soit certifié pour le transport public, a servi à suivre en vitesse supersonique, doublement supersonique, l'ombre de la Lune qui se déplaçait lors d'une éclipse totale.
Le Concorde a suivi l'éclipse.
Il a volé dans la Lune. Il allait dans le confrère Pierre Léna qui était à bord. Oui, et il allait des îles Canaries vers le Tchad. Et c'est la plus longue éclipse. Elle a dû durer 72 minutes, je crois.
Oui.
C'est un record mondial.
Autour de la question pourquoi demander sans Concorde, mais pourquoi demander la Lune et l'éclipse solaire? Je propose un dernier éclairage. C'est celui de François Farge, professeur de minéralogie, qui était récemment notre invité.
Moi, il y a une chose qui me fascine beaucoup et je pense qu'on a beaucoup à apprendre, c'est sur l'influence de la Lune sur le cycle de la nature. Alors, on connaît les marées, on a entendu des choses assez récemment sur peut-être les plantes. On a encore beaucoup à découvrir sur l'influence, alors pas des influences psychanalytiques ou des influences métaphysiques, mais sur l'influence réelle de la Lune sur tout le cycle naturel. Je crois qu'on a peut-être encore beaucoup à trouver de ce côté-là, me semble-t-il.
Qu'est-ce qui reste à découvrir sur l'influence de la Lune, pas des éclipses solaires, mais sur l'influence de la Lune sur les cycles naturels de la Terre, Bernard Malguen?
Si j'avais découvert, je vous le dirais. Je ne suis pas chercheur dans ce domaine, donc on peut
vous
pas.
Vous avez étudié, vous,
oui,
vous
oui,
savez on, ce qui a déjà
on a
été
quelques
découvert.
Pistes, on a quelques pistes de recherche. Alors, c'est Blaise Pascal qui disait on prête à la Lune tellement de pouvoir qu'il y en a bien quelques-uns qui doivent être vrais. Bah oui, il y a déjà les marées. Alors, il faut être très prudent, évidemment. Il faut
et
pas...
les marées terrestres aussi.
Alors,
hein,
les marées terrestres,
pas seulement,
quand la Lune passe au méridien du lieu, la Terre se soulève de 30 à 40 centimètres. Et nous pesons moins lourd, d'ailleurs. Hein.
Nous pesons moins lourd.
À quelques microgrammes, oui, parce que la Lune nous attire. Bah écoutez, plus on s'éloigne de la Terre, plus on est léger. Jean-François Clairvoy, dans sa navette spatiale à 500 km, il volait gentiment, hein, n'est-ce pas?
Voilà, ça c'est parce que je suis en chute libre et il y a aucun obstacle qui arrête ma chute.
Voilà.
Mais si une montagne s'élevait jusqu'à l'altitude de la station spatiale internationale, environ 400 km, et que je me pesais sur une balance, je ferais plus 70 kg, mais peut-être que 65, parce que je suis un peu
moins lourd tout en haut, tout en haut de la montagne.
Voilà,
si elle
plus
était...
on s'éloigne du centre de la Terre.
Voilà.
Plus la force d'attraction gravitationnelle qui
est moindre,
mais qui correspond au poids à peu près, est moindre et donc,
voilà.
Mais l'attraction gravitationnelle terrestre, elle porte jusqu'à la Lune et même au-delà. Sinon, la Lune, elle partirait en ligne droite à l'infini.
Voilà.
La raison pour laquelle la Lune tourne autour de la Terre, c'est parce qu'elle est toujours attirée
par la Terre,
par l'attraction gravitationnelle qui est la source de ce qu'on appelle le poids pour nous.
Hein. Oui. Mais donc il y a des marées terrestres aussi, puisque vous me demandiez. Mais nous étions partis sur les influences sur la vie. C'est ce que la question que vous posiez.
Exactement.
Alors, parmi les pistes, parce qu'il y a des pistes très intéressantes, il faut pas tomber dans les légendes, les superstitions. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Bah oui, mais tout ce qu'on prête n'est pas bon. Mais
alors,
dans le cas de la Lune, très récemment, des équipes suisses notamment, et Francis Allais était sur cette voie. Francis Allais est un des meilleurs, nos meilleurs spécialistes sur les arbres, mondial avec le radeau des cimes. Bon, j'en ai discuté longuement avec lui. Il m'a mis sur la piste de ses chercheurs suisses. Alors, on a découvert, il n'y a pas très longtemps, paru et validé dans la revue Nature, il y a des marées lunaires dans les arbres.
Des marées lunaires dans les arbres.
Oui,
c'est pas de la science-fiction.
Non, c'est pas de la science-fiction. Et déjà, depuis des siècles, quand vous allez en Suisse et que vous achetez un chalet suisse, eh bien, si c'est du bois de la Lune, vous le payez très cher. Si c'est pas du bois de la Lune, vous le payez moins cher.
Bois de la Lune, ça veut dire qu'il est influencé.
Alors, il a
par
été coupé à un certain moment où la Lune est montant. Enfin, je suis pas spécialiste de ça, mais monte croissante ou décroissante pour que le bois, le flux de la sève fasse que le bois coupé à ce moment-là, eh bien, ait plus de pérennité.
C'est pour ça d'ailleurs que j'attends impatiemment de voir ce 90 minutes sur la Lune.
Hein, oui.
Parce Lune, la face cachée de la Terre, un très beau documentaire.
Il est remarquable, il passe ce soir d'ailleurs sur Planète Plus.
Et parce qu'il détaille beaucoup de ces phénomènes naturels influencés par la Lune.
Oui, le réalisateur François de Ribérolle, on en a parlé longtemps ensemble, est très sensible, il est biologiste aussi, à tous ces mouvements de la vie. Et
donc il reste encore à découvrir, alors, non seulement
certain.
Dans l'espace, mais aussi l'influence de la Lune sur la Terre, il reste encore à découvrir.
Regardez déjà les spéléologues des expériences. Alors là, est-ce que c'est la Lune? Oui, non. Regardez Michel Siffre et d'autres qui ont vécu sous la Terre, loin de la lumière du soleil. Il y a des repères sociaux. Il est midi, on s'interrompt pour aller déjeuner, etc. Eh bien, ils ont un rythme. Alors, on leur donne pas de montre, mais ils peuvent écouter de la musique, travailler, etc. Ils ont des journées qui leur semblent normales.
Leur rythme biologique, ça l'ombre.
Oui, il est environ de 25 heures, 24,8, qui correspond à un cycle de la Lune.
Ah oui, la journée sur la Lune, ce serait 25 heures.
Non, nous sommes sur la Terre et nous sommes en train de voir que nous aurions peut-être, hypothèse, je suis très prudent, deux horloges biologiques, un rythme circadien de 24 heures, qui est celui du soleil, mais un autre rythme qui serait celui des marées. Et peut-être que c'est une mémoire du temps où nous étions poissons. Je ne suis pas biologiste, je me lance là. Mais il y a une coïncidence. Voilà.
On est vraiment dans les grandes questions. Dernière grande question peut-être, au fait, à qui ça appartient la Lune? Jean-François Clairvoy.
Mais aux rêveurs, aux amoureux, aux poètes.
Ah, jolie réponse.
Des accords internationaux, donc signés par tous les pays, sont d'accord pour dire que la Lune n'appartient à personne. Donc, elle appartient même pas à l'humanité ou aux hommes. Elle est là et elle est pour tout le monde et elle doit servir le bien-être de tout le monde, de toutes les espèces. et il faut la protéger. C'est-à-dire que toute mission qui irait se reposer sur la Lune, comme dans le passé, doit faire très attention à ne pas la polluer, pas perturber éventuellement des phénomènes physiques, physico-chimiques, organiques qui auraient lieu sur place. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir, puis elle restera magique de toute façon. Vous savez, la première fois que je suis allé dans l'hémisphère sud, je regarde la Lune et je la vois en forme de coupe. Comme un calice, alors que j'avais vraiment l'habitude de voir les croissants plutôt...
Les croissants debout, quoi,
couché. La barque comme un C ou un C inversé.
La barque céleste, quoi.
Voilà. Et donc, de voir que la Lune peut avoir ses croissants dans toutes les orientations, chez moi, après, avec un globe, une lumière, je me suis reproduit la géométrie pour comprendre, parce que ça me paraissait vraiment bizarre.
Merci infiniment, en tout cas, à tous les deux, hein, Jean-François Clairvoy et Bernard Malguen, d'être venus en direct nous faire partager votre expérience, vos recherches, vos pistes sur la Lune. Lune, la face cachée de la Terre. C'est le titre de ce très beau livre que vous avez donc co-signé, Bernard Malguen, avec Catherine Sauva aux éditions La Martinière, et auquel vous avez participé avec de nombreux chercheurs, astronomes et astronautes, Jean-François Clairvoy. Je signale aussi donc que les films documentaires La Lune, face cachée de la Terre, c'est à voir sur la chaîne Planète à l'occasion de l'éclipse solaire du 20 mars 2015, c'est-à-dire ce vendredi, qu'on se le dise avec des lunettes sur RFI.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, retour sur Terre, autour de la question « Quel avenir pour les villes ?» Nous nous demanderons comment inventer d'autres formes d'urbanisme à échelle plus humaine que nos mégalopoles, avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien, amis auditeurs, surtout restez curieux et continuez de regarder la Lune. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.